On est en direct du Salon de l'Auto de Montréal. Je vous rappelle que l'événement débutait hier et se poursuit jusqu'au 27 janvier au Palais des Congrès. On est au 5e étage ce matin. À compter de 10 heures, les portes ouvriront. Vous pourrez venir nous rendre visite. Je salue nos gagnants qui se sont déplacés ce matin pour venir nous voir. Merci beaucoup de le faire. Très apprécié en passant. Et je salue également deux éminences grises du milieu de l'automobile au Québec.
Oui, ça commence à être vrai, oui.
C'est pas mal plus blanc que gris, je ne veux pas vous écœurer avec ça quand même, mais Benoît Charrette et Philippe Lagu, salut les gars.
Salut Mathieu.
Salut.
Parlons un peu justement du... On parlait avec Bertrand Godin tantôt, on disait le Salon de Montréal, c'est un salon pour le monde, alors qu'il y a des événements de presse. T'arrives de Détroit, on s'est parlé au Salon de Détroit,
absolument.
Benoît. C'est de moins en moins ça, les salons de l'auto. Et ceux qui ont pris cette veine-là d'aller vers des salons de journalistes en payent le prix et cher à part ça.
Bien, c'est parce que là, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a l'avènement de l'Internet qui a tué beaucoup des surprises qu'on a dans les grands salons. Nous, on allait dans les grands salons de l'auto il y a 20-25 ans. Puis, on n'avait aucune idée de ce qui allait être présenté. Là. C'était vraiment, un après l'autre, c'était des surprises. Là.
Puis quand on dit les grands salons, là, on parle de Détroit, ouais. Paris, Francfort,
Tokyo,
Genève.
Exactement. Et là, avec l'avènement de l'Internet, bien, tranquillement, les nouvelles ont commencé à fuir. On connaissait quelques modèles. Depuis quelques années, honnêtement, je pourrais couvrir le salon de l'auto de Détroit dans la cave chez nous avec mon ordinateur. Là. On a des sites en temps réel qui présentent les nouveautés, les présentations de constructeurs. Donc, c'est le fait d'aller là-bas puis de vivre l'atmosphère.
Ouais.
Mais pour beaucoup de gens, c'est plus utile de le faire. Et l'autre chose, il y a eu aussi, depuis quelques années, les budgets sont beaucoup plus serrés. Il faut comprendre qu'un salon de l'auto, un grand constructeur qui présente un modèle-là, sera un constructeur parmi 10, 12, 15, 20 qui vont présenter un modèle. Et nous, comme journalistes, notre couverture, bien, on va parler 8 lignes de tel modèle, 5 lignes de tel autre modèle. Donc, c'est une couverture qui
c'est onéreux pour ce que ça rapporte.
C'est onéreux. Les constructeurs font maintenant, depuis quelques années, des présentations hors salon, la veille souvent, des fois même l'avant-veille du salon, parce que là, les journalistes vont parler juste de ce modèle-là, au lieu de parler de 18 modèles.
Il y a un troisième facteur aussi.
Oui.
Ce sont les salons techno.
Oui.
Alors là, il y a des constructeurs automobiles qui décident d'aller là plutôt que d'aller... Exemple, Salon de Détroit, Audi, BMW, Mercedes, trois marques allemandes, trois marques qui sont très, très fortes sur le plan technologique. C'est vraiment un petit peu leur image qui est très solide à ce niveau-là. Ben, eux autres, ils ont dit pourquoi on irait perdre notre temps à Détroit. Ils étaient absents. Et ils étaient
à Vegas.
Au CES, au Consumer Electronic Show.
Ça a sonné de glotte Détroit là, depuis quelques années, parce qu'au début, il n'y avait pas d'auto au CES. Puis là, il y a une aile complète du salon qui est consacrée aux voitures.
On va se parler deux fois dans l'émission présentement, puis on va y revenir également un peu plus tard en toute fin d'émission, puis on pourra s'attarder peut-être plus aux présentations ici. Il y a un volet vert. J'entends les tribunes téléphoniques sur nos ondes. On en a fait nous autres même, puis on parle beaucoup du véhicule vert, du véhicule électrique, de l'hybride rechargeable, qu'importe. C'est-tu si gros que ça où on enfle un peu la patente?
Bien, au Québec, on vit en vase clos. Là. Il faut être honnête, le Québec a une sensibilisation, une conscientisation aux véhicules verts.
40% des voitures électriques et hybrides vendues au Canada, c'est au Québec. 40% là. 40 000 sur 100 000 à peu près. Là.
Oui, puis... La chose ici, c'est que, bon, on a de l'électricité propre et on l'a à peu de frais. Si on sort du Québec, il y a la Colombie-Britannique au Canada qui est le deuxième marché. En fait, l'Ontario était le deuxième marché. Depuis qu'on a arrêté subvention le 10 septembre, l'Ontario a pris une chute d'à peu près 75% des ventes de ses véhicules électriques.
75%?
Oh, oui, c'est comme tomber à plat.
Ça aussi, ça bénéficie au Québec parce que là, les inventaires des concessionnaires ontariens étaient remplis de voitures électriques.
Ils ont tout envoyé ça chez nous.
Ils avaient des subventions de 14 000 $ qui ont été abolies par le nouveau gouvernement de Doug Ford. Alors là, ces inventaires-là ont été redistribués vers les concessionnaires québécois. Alors, ceux qui se plaignaient au Québec que quand on voulait acheter une voiture électrique, il n'y en avait jamais en stock, là, il y en a plein.
Oui, là, on a un inventaire qui tient la route. Et si on regarde ailleurs, en Amérique du Nord, Je dirais qu'il y a à peu près 11 États américains là, qui ont voté des lois semblables à celles de la Californie où il y a un intérêt pour la voiture électrique, mais le reste, là, c'est vraiment très discret. Là.
Mais en même temps, à un moment donné, les consommateurs vont être obligés d'en acheter parce que les constructeurs se dirigent tous vers ça.
Oui, moi, j'ai parlé avec Vincent Kobe de chez Mitsubishi qui expliquait que le grand marché qui gère la planète là, maintenant, c'est plus les États-Unis, c'est la Chine.
Ouais.
Parce qu'il y a 30 millions de véhicules par année qui se vendent là-bas. Et eux conçoivent des véhicules qui sont conformes au marché chinois parce que c'est le marché qui est le plus sévère à travers le monde pour les véhicules verts. Fait que si on est correct là, on est correct partout. Et 2021-2025, deux dates à retenir où les lois vont changer au niveau des émanations polluantes et au niveau de la consommation moyenne des véhicules. Donc, Philippe a raison, on doit aller vers l'hybridation partielle ou l'électricité pour rencontrer les normes qui s'en viennent. Donc, d'une manière ou d'une autre, on va en avoir de plus en plus des véhicules électriques.
Mais pour l'instant, en ce moment, on a juste à voir comment c'était au Salon de Los Angeles au mois de novembre, comment c'était au Salon de Détroit et comment s'est déroulée la journée de presse ici à Montréal. Tous les lancements, ou presque, quoi, 8 sur 10?
Ah, oh, pas loin.
C'était oui. Des VUS.
Ah oui.
Les VUS?
Ah oui, oui. Okay. Okay.
Ben, c'est ce qui se vend encore le plus?
Là? C'est ce qui se vend encore le plus et c'est ce qui est payant. Parce qu'il faut comprendre, c'est que pour financer le virage vert des constructeurs automobiles, on parle pas de millions, on parle de milliards de dollars et pas de 2, 3 milliards, de 25, 30, 40 milliards de dollars. Et ça, ben, on va faire quoi? On fait de la restructuration, comme GM a fait à l'automne. L'autre étape, c'est qu'on dit, OK, nous, on va vendre ce qui est payant, les camions, les utilitaires, les VUS, et on va prendre cet argent-là pour financer notre virage vert. Et c'est ça qu'on fait en ce moment. C'est pour ça qu'il y a encore tant de camions. Les gens se disent, mon Dieu, qu'il y en a des pick-up sur la route. C'est vrai, mais c'est payant vendre des pick-up. Alors, eux en vendent...
Les plans de financement aussi, ça paraît, là?
Ben oui, c'est ça. On supporte la vente de ces véhicules-là parce que c'est payant pour les compagnies.
Quand Benoît dit que c'est payant, là, on réalise pas jusqu'à quel point ça peut grimper quand on achète un pick-up. Le prix de base peut être à quoi? En bas de 30 000 même, des fois?
Ouais, mais mettons 40 là, pour avoir quelque chose qui tient à la route, mais t'en as dans les 30.
Puis il y en a, mais dès le moment où on met beaucoup d'équipement, on arrive à 75 000. Là.
80, 90.
J'ai vu des F-150 à 75-80 000, là.
Oui, c'est OK. Il y a un marché pour ça quand même.
Yeah. Les contracteurs, les gars qui travaillent sur la construction.
On vend en Amérique du Nord près d'un million de F-150 par année. Là, j'ai juste parlé du F-150. Je t'ai pas parlé du Silverado, du Sierra puis du Ram. Là. Les trois ensemble, on est à 2,5 millions, 2,6 millions par année en Amérique du Nord.
Parce que les gars qui achètent ça aujourd'hui, les gars et les femmes, c'est leur bureau. Ouais, en même totalement. Temps, c'est plus qu'un camion utilitaire pour charrier du stock, là.
Oui,
c'est puis, aussi leur deuxième bureau.
Puis le marché s'est adapté. Tu sais, aujourd'hui, c'est un véhicule familial, un pick-up. Là. Il y a 20 ans, c'était un véhicule de travail, c'était un outil de travail. C'est encore vrai pour une bonne partie des gens, mais maintenant, tu prends une finition de limousine, un système de son Bose, du cuir. T'es dans une berline de luxe, mais avec une boîte en arrière et de la place pour 6.
Mon F-150 2004, je vous le confirme, il n'y a rien de ça.
Il n'y a rien de tout ça.
Non, il est assez de base.
Mais c'est plus un outil de travail. Là,
pas mal, oui.
Bon,
mais, mais ton prochain F-150 va peut-être être électrique. Ça a été dans les cartons chez Ford. Ouais.
Bon, ça, c'est OK. Là, il y a une évolution qui se fait. Il y a eu beaucoup de choses, puis les gars, vous connaissez aussi, on a parlé beaucoup dans... Je reviens là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les véhicules, puis je reviens encore aux véhicules électriques. On dit, c'est pas si écologique que ça parce qu'il y a des batteries. La production des batteries, il y a un coût environnemental. Le coût de l'électricité, on le sait, c'est de l'hydro ici, mais ailleurs, c'est au charbon.
Ouais.
C'est quoi et où la vérité dans tout ce qu'on entend?
Ben, tu viens de dire le mot-clé, charbon.
Oui.
Alors, les pays qui produisent de l'électricité avec des énergies fossiles, ben, à ce moment-là, dans ces pays-là, ça prend 2 à 3 fois plus de temps lorsqu'on achète un véhicule électrique pour effacer son empreinte écologique. Mais dans les pays où on produit de l'électricité propre, c'est le cas du Québec, mais c'est le cas aussi de plusieurs pays scandinaves.
Il y a que plusieurs, oui, certains pays scandinaves. La Norvège en a une partie, ouais, la Suède, l'Islande, l'hydroélectricité.
Parce que c'est surprenant, on pense qu'il y a juste en Chine où on produit encore de l'électricité au charbon. Non, aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne.
Nucléaire aussi. pose un problème, parce que nucléaire, tu fais quoi avec les déchets, là? C'est encore un problème sérieux. Et aussi, évidemment, si on prend la vie après la fin de la vie du véhicule, mais la vie de la batterie, il y a certains constructeurs qui ont des ententes pour faire des accumulateurs fixes, c'est-à-dire qu'on va mettre ça dans des éoliennes, par exemple, des anciennes piles de voitures. Sauf que là, si demain matin, parce que là, pour le moment, on parle d'un pourcentage extrêmement faible, on est à 2,2% au Québec, mais à travers l'Amérique du Nord, la moyenne n'est pas tout à fait à 1 ou à 1,1%. Là. Mais on fait quoi le jour où il y a 30, 40% de véhicules électriques? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors, c'est à ça qu'il faut penser. Évidemment, il y a de la recherche qui se fait. On travaille déjà sur des piles solides pour lesquelles on a probablement de meilleures façons de réutiliser les piles après la fin de la vie utile avec la voiture. Mais évidemment, il y a de la recherche qui se fait là-dessus.
Puis il y a des pays aussi qui vont peut-être devoir trouver des nouvelles façons de produire de l'électricité. Parce que le charbon, là, ça n'a pas beaucoup de vertus écologiques. Hein? On s'entend, là.
Non, mais même les coûts d'extraction aux États-Unis. On sait, durant la campagne électorale, Donald Trump avait promis aux travailleurs du charbon des reprises de leurs mines en disant on va assouplir les règles pour qu'on puisse rouvrir. Mais le problème, c'est que les coûts d'extraction sont tellement chers que même les propriétaires de mines disaient
ça ne vaut pas la peine d'ouvrir. Non. Puis on va ramener plus acide. T'sais, plus acide, c'est le charbon. Quand on a fermé les fines de charbon, les plus acides sont finis, par hasard.
T'sais. Ça a donné comme
Donc, c'est ça. Il y a du travail à faire encore à ce chapitre-là.
Il nous reste à peu près 2 minutes avant la fin de l'heure, puis on va se reparler en fin d'émission. Puis je veux que vous me prépariez, vous me dites, c'est quoi les coups de cœur que vous avez vus ici à date? Parce que vous avez eu l'occasion de faire le tour. Ouais. Vous avez eu l'occasion de voir qu'est-ce qu'il y avait. Les grands disparus, ceux que vous êtes peut-être déçus de ne pas voir, ceux qui ne se présentent pas, est-ce que vous en avez un en tête rapidement?
Là, c'est pas une disparition, c'est une absence. Mais moi, je trouve inconcevable que Tesla ne soit pas au Salon de l'Auto de Montréal. Inconcevable.
Ouais, puis Tesla ont choisi... Tesla, en passant, ils sont dans aucun salon. Là. Ils ont choisi... Tesla ne collabore pas très bien avec le public et les journalistes
en général. Les journalistes, c'est zéro, là. C'est la catastrophe.
Nous autres, les journalistes, on n'est plus capable de parler à Tesla. C'est fini, là. Peu importe où on appelle, moi, j'ai tout essayé, là. Puis ils ont fermé la porte et ne veulent pas faire face à la critique. Point. Oui. Alors, il y a mieux s'absenter. Carrément. Parmi les voitures qui m'ont intéressé, moi, je dois dire que la Supra, on l'attendait depuis une éternité.
La Toyota, ça.
La Toyota Supra, moi, c'est un modèle que j'avais hâte de voir, que j'y vais à Détroit. Et chose intéressante, 3 jours après la première mondiale à Détroit, il est à Montréal. Fait que ça, c'est un bon coup de Toyota. Là. On a une voiture qui est toute récente. Là.
Toi, rapidement?
Je vais être plus terre à terre, là. Mais une voiture qui touche beaucoup, beaucoup de gens. Puis c'est pas vrai qu'une auto a besoin de coûter plus que 50 000 $ pour être désirable. La petite Mazda 3 est vraiment magnifique. Belle petite voiture.
L'aimes-tu en GT, toi, Phil? Je pense que c'est une GT. Hein?
Oh, je les aime. J'aime le design en général, le design Kodo chez Mazda.
Puis avec 4 roues motrices. Ça, c'est intéressant.
Ah, ça, c'est intéressant quand même.
Là,
on ne fait pas de ségrégation. Toi, tu les aimes toutes. Là.
Oui. Mon vrai coup de cœur, il coûte plus cher que ça. Là.
Ah oui?
Oui.
T'es dans quoi?
Ah, moi, je suis très italien. Ça, c'est...
Ah oui?
Maserati, c'est ma marque préférée. Ça, j'ose le dire. Là.
Et est-ce qu'il y a un marché pour ça? Je sais qu'ils s'en vendent, Maserati, au Québec.
Parle de Maserati, ça, c'est intéressant que tu en parles. Eux autres, là, c'est bien étrange. On dirait qu'ils ne veulent pas vendre d'auto au Québec. Ils font tout pour ne pas en vendre. Bon, premièrement...
Pourquoi tu dis ça?
Non, mais c'est des petits marchés, tu sais.
OK.
C'est des petits marchés, mais en même temps, regarde le nombre d'Audi, de BMW et de Mercedes qu'il y a sur nos routes. C'est pas un si petit marché que ça. Alors, on va comparer des pommes avec des pommes. Maserati, là, ça se situe à peu près au niveau de Jaguar. D'ailleurs, c'est pas mal l'adversaire numéro un de Maserati. Ben, Jaguar, au moins, on a un concessionnaire sur la Rive-Nord. On a un concessionnaire à Montréal, un concessionnaire sur la Rive-Sud et un concessionnaire à Québec. Ce qui est pas mal le minimum acceptable là, pour une marque de luxe. Du côté de Maserati... Au sud du Saint-Laurent, il n'y a absolument rien. Ils n'ont pas de concessionnaire nulle part en Montérégie, en Estrie, pas de concessionnaire à Québec non plus. Et avec nous, les journalistes, les communications sont inexistantes.
Ah oui.
Au Québec, en tout cas.
On peut se partir d'une concession. Si tu veux, j'ai un village, moi, avec des locaux disponibles.
Moi, je vois. J'embarque.
Fournis les fonds, moi, allez gérer ça. OK, merci beaucoup. Benoît Charrette, Philippe Lagu, que l'on retrouvera d'ici la fin de l'émission. On est en direct du Salon de l'Auto de Montréal, au Palais des Congrès, 5e étage, ouverture des portes dans un peu plus d'une heure maintenant. On revient dans un instant.